Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir à Station Ozone Léonore de Recondo pour son dernier ouvrage paru aux éditions Stock qui s'appelle La leçon de ténèbres. Vous êtes écrivaine et violoniste professionnelle. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, dont Le rêve oublié, Pietra Viva, Amour, Point cardinal et Manifesto, avec lequel votre dernier livre a beaucoup de points communs. On aura l'occasion de l'évoquer. Pour parler de Leçon de ténèbres, il faut dire que ce livre rentre dans une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. Donc le principe est d'inviter donc un écrivain ou un artiste à passer une nuit plutôt seul dans un musée et à raconter en fait cette expérience. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avoir accepté de passer une nuit dans un musée?
Parce que c'est un peu le rêve. C'est comme passer une nuit dans une librairie, je pense. Seul, quand tout est éteint. Il y avait cette idée-là, je pense, un peu enfantine, d'être enfermé, peut-être de se dire qu'on perçoit les choses autrement quand on est seul. Et puis, dans les musées, enfin, je sais pas comment vous le vivez, vous, mais dans les musées, quand il y a beaucoup de monde, enfin, cette promiscuité, elle empêche un peu de profiter pleinement des œuvres. Parfois, on aimerait être dans une sorte de tête-à-tête avec certaines peintures qui nous émeuvent. Donc, quand Alina Gourdiel, qui dirige cette collection, m'a appelée en me disant « Est-ce que ça t'intéressera ?» Alors, moi, je dois dire que j'avais déjà repéré cette collection. J'avais lu le livre de Lydie Salver, qui a donc été au musée Picasso, et aussi celui de Kamel Daoud. Et j'avais trouvé que c'était formidable. C'était formidable parce qu'il y avait quelque chose de différent qu'on percevait. Peut-être c'est cette forme de contrainte, finalement, de cette nuit, ou peut-être parce que dans la nuit, il y a toujours un moment où il y a quand même quelque chose qui lâche, puisque la nuit est longue. Et alors, pour vous dire, on nous installe un... Je reviens à Gréco. Et donc, Alina Gourdiel me propose... Alors, les premiers textes étaient au musée Picasso, mais là, elle m'explique que, donc on peut bouger, on peut aller plus loin. Et moi, j'avais envie de partir en Espagne, et le Gréco s'est imposé assez rapidement, parce que c'est vraiment un peintre tellement particulier, tellement extravagant, tellement énigmatique, je dirais. Enfin bon, bref. Et puis parce que j'y étais allée, et puis parce que mon père est peintre espagnol, il y avait quelque chose d'une familiarité, au bon sens du terme, qui faisait que dans ce musée-là, qui est aussi un musée maison, pas un musée habituel, il y avait quelque chose qui pourrait peut-être se jouer, je me suis dit, pour moi. Donc j'étais très, très emballée. Et je pense que les auteurs à qui elle le propose sont toujours très emballés. Parce que d'abord, c'est un peu différent, on se sent quand même aussi un peu privilégié dans ces lieux qui sont publics, de tout à coup être seul. Et puis, on se fait quand même beaucoup d'idées, parce que moi, j'ai pensé que je pourrais faire ce que je voulais dans le musée, que je pourrais bouger, déambuler comme je voulais. Or, ça n'est pas du tout ça. Je dois vous dire que si on vous propose de passer une nuit dans un musée, vous serez filmé. Déjà, moi je pensais que c'était cette grande maison avec patio, jardin. Je me suis dit formidable, je vais pouvoir parcourir toute cette maison où je veux. Finalement, les gardes et la conservatrice m'a dit, mais pas du tout, parce qu'en fait, la nuit, tout est sous alarme. En journée, il n'y a pas d'alarme dans les musées parce qu'il y a des surveillants dans chaque pièce, parce que sinon, on sonnerait dès qu'on s'approcherait d'un tableau, ça se mettrait à sonner. Donc, il m'avait en fait juste laissé trois salles hors alarme. Une aile avec vraiment quasiment tous les Gréco, où j'avais le droit de rester seulement 2 heures. Donc, ça commençait, la contrainte commençait d'être vraiment, vraiment contraignante. Et donc, il y a eu ça, cette première contrainte. Donc, je pouvais rester seulement jusqu'à 1 heure du matin dans ce lieu sans alarme, où, évidemment, j'étais quand même filmée. Enfin, il y avait des caméras. Et puis ensuite, je pouvais aller dans le jardin, je pouvais bouger comme ça, et je pouvais passer le reste de la nuit dans la chapelle où il y avait un autre tableau de Gréco. Donc, bon, au début, quand on a cet appel, on se dit « Ah, formidable !» parce que c'est une sorte de rêve d'enfant. Et puis quand on est sur place, les choses sont évidemment un peu différentes, mais en même temps, la contrainte provoque certainement autre chose. Donc j'ai accepté avec joie d'y aller et je n'ai pas regretté d'avoir choisi Tolède et le Gréco, de passer cette nuit-là. C'était vraiment... Je pense que ça restera pour moi comme une sorte de moment comme ça, diffus. Et puis... On y va d'une manière un peu différente, parce qu'on y va en sachant qu'il va falloir en faire quelque chose quand même de cette nuit. Même si moi j'ai commencé un tout petit peu d'écrire, je pensais que peut-être je prendrais plus de notes. Finalement, c'était pas une année, c'était pas une nuit très constructive sur ça en tout cas. Mais quand on arrive dans ce lieu, on a l'impression qu'il quand même va falloir en prendre quelque chose, qu'il va falloir en rendre compte, en tout cas. Même si après, on raconte tout à fait autre chose et qu'on raconte n'importe quoi ou pas du tout ce qui s'est passé, on a ce devoir-là. Donc il y a quelque chose du privilège d'être seul dans un lieu particulier et aussi le privilège peut-être d'être dans un face-à-face et dont il va falloir tirer parti le mieux possible, si possible.
Alors comment on se prépare ? Est-ce que vous avez replongé dans l'œuvre du Gréco ? Je crois que vous avez apporté votre violon. Ouais. Est-ce que vous avez des livres ? Est-ce que vous amenez du papier ? Du papier, vous dites, parce que vous pensiez écrire.
Oui.
Comment on se prépare, en fait ?
Alors, on se prépare. Alors, moi, je suis très bonne élève, très disciplinée, dont j'ai commencé dans une angoisse terrible en disant « mais je ne connais rien ». Je connais un peu, j'aime la peinture espagnole, mais je ne suis pas historienne de l'art. Enfin, bon, et de toute manière, le point de vue qu'on me demande n'est pas un point de vue d'historienne, ça je le sais. Mais j'ai quand même acheté, je pense, 18 catalogues, 24 livres, 42 biographies. Donc j'avais ce tas comme ça, et en me disant qu'il fallait évidemment élargir. Que se concentrer sur la vie du Gréco n'était pas assez. Donc j'ai lu la littérature, évidemment il y a Cervantes hein, qui est à cette époque-là, qui en plus vient à Tolède plusieurs fois quand Gréco y vit. Donc j'ai relu Cervantes, j'ai relu notamment une nouvelle de Cervantes qui s'appelle Alors, je l'ai lu en espagnol, qui s'appelle La belle servante, ou quelque chose comme ça, d'une très belle servante dans une auberge à Tolède, qui en fait est une princesse. Et j'ai relu Sainte-Thérèse d'Avila, j'ai relu Jean de la Croix, j'ai relu ces grands mystiques de l'époque, pour me mettre dans l'atmosphère et dans le bain culturel, dans le bain dans lequel il... Peut-être j'ai lu aussi sur Tolède, sur la ville, sur l'histoire. Enfin, vous voyez, quand même. Mm-hmm. Donc, je me suis préparée autant que j'ai pu. J'ai pris mon violon parce que je vous explique le titre, mais ça allait peut-être venir juste après, mais... Mon idée première, qui n'a pas été celle que j'allais faire, parce que vous allez vite comprendre pourquoi, je voulais... Enfin, La Leçon de Ténèbres est donc un genre musical du XVIIe siècle en France, qui était joué pendant les offices précédant Pâques, pendant la nuit. Donc les trois jours précédant Pâques, on allait à la messe, je pense, vers minuit, 1h du matin, 2h du matin, et ces leçons de ténèbres étaient jouées à la lumière des bougies, et les bougies étaient éteintes petit à petit, et quand arrivait l'aube, à la fin de cette musique, le jour apparaissait, donc l'espoir, malgré l'approche de Pâques. Donc évidemment, ce genre musical qui se passe dans la nuit, qui est évidemment lié au Christ, enfin, qui est quand même très 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 présent dans la peinture du Gréco, en lien avec ma pratique musicale de la musique baroque, ce titre m'est apparu très vite. La leçon de ténèbres, la nuit, la musique. Et je me suis dit, alors là j'étais complète, je pense que j'ai eu une sorte de délire. Je me suis dit, je vais faire pareil, je vais prendre mon violon, je vais prendre des bougies, je vais réussir à planquer des bougies dans mon sac, et je vais faire une sorte de grande fête comme ça, mais juste pour moi, hein, qui serait d'allumer des bougies et de commencer à jouer de la musique et d'éteindre ces bougies. Bon, quand j'ai vu les gardes, quand j'ai vu les caméras, je me suis dit, mais Léonore, mais Quelle drôle d'idée, c'est absolument impossible quand même de croire que je vais pouvoir faire ça. J'avais quand même des bougies dans mon étui de violon que je n'ai jamais allumé, mais j'ai gardé l'idée du titre qui de toute manière me semblait tout à fait juste par rapport à cette nuit, en tout cas juste par rapport à mon travail, à la résonance que ça avait au violon qui apparaît, puisque je voulais jouer de la musique dans ce musée, une certaine heure de la nuit. Je savais aussi dans les biographies que j'avais lues que Gréco aimait beaucoup la musique, qu'il avait des amis musiciens, qu'il a eu une période très fastueuse où il avait beaucoup d'argent et il organisait beaucoup de concerts chez lui. Donc je me disais que de revenir des siècles après avec un instrument et de faire une sorte de concert extrêmement privé pour lui serait une manière de lui rendre hommage. Donc voilà, donc je me suis préparée comme ça et je suis arrivée à Tolède le 28 juin dernier, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un week-end de canicule extraordinaire. Donc j'arrive là-bas et j'arrive le vendredi à Tolède, je vais passer la nuit du samedi dans le musée et il fait 44 degrés. Et c'était complètement dingue, ça aussi, cette chaleur. Et j'ai beaucoup marché dans la ville, j'ai beaucoup déambulé dans cette Tolède qui était donc à l'époque juste avant l'arrivée de Gréco, mais sous Charles Quint, qui était la capitale de l'Espagne. Donc c'est un lieu très très important, très riche spirituellement, et c'était aussi l'époque de l'or des Amériques. L'Espagne était extrêmement riche. À la fin du XVIe siècle. Donc c'est aussi une très belle ville. Et c'est aussi, je ne sais pas, c'est aussi émouvant d'essayer de rattacher une œuvre à un territoire, je pense. Il y a d'ailleurs une très belle, j'en parle dans le livre, une très 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 belle peinture dans la cathédrale qui a été commandée par l'archevêque pour la cathédrale, donc elle est toujours en place. Et il y a d'autres Gréco dans toute la ville. Il y a l'enterrement du duc d'Orgaz, du comte d'Orgaz, dans une chapelle. Enfin, il y a encore des choses in situ, et ça, c'est quand on sait que c'est sa ville. Enfin, je sais pas, je pense que ça donne une autre vision. Ça vient l'enrichir.
Oui, parce qu'avant de visiter le musée, vous avez fait un grand tour de Tolède. Là, vous racontez, vous avez fait le monastère Antigo.
C'est ça, le monastère où il avait une grande commande. Enfin, avant de m'enfermer là, je me suis dit, circulons pour voir les œuvres où elles étaient vraiment. Je pense que ça, c'est rare. On voit toujours des œuvres, enfin, très souvent, pas toujours, hein, mais on voit très souvent des œuvres dans des musées comme ça, les unes à côté des autres. Mais de voir. Enfin, je pense que le peintre aussi, quand il a une commande, alors évidemment, il y a son sujet et les contraintes de l'époque étaient très, très, très strictes quant au sujet, quant aux couleurs, quant à la manière au format, à la disposition des personnages, tout ça était très strict à l'époque. Mais le lieu, forcément, est une source d'inspiration. On ne peint pas la même chose pour la cathédrale, que pour un monastère, que pour... Et donc de revoir les peintures dans leur lieu, de là où elles ont vécu, puis là où elles sont depuis tant d'années. Je sais pas, c'était émouvant, ça aussi. C'était bien de pas être juste dans un musée, d'être dans sa ville, dans son quartier, dans ce qui évidemment a changé, mais ce qui aussi ne change jamais. La topographie de Tolède, c'est quand même une butte. Il y a une rivière en bas, mais c'est une sorte de butte comme ça. On est dans la Castille et la Mancha, c'est vraiment comme on imagine Don Quichotte, c'est pareil. C'est ces grandes plaines comme ça, très très sèches, très arides, qui ont été évidemment un peu cultivées, mais tout d'un coup, il y a cette sorte de monticule avec cette ville fortifiée. Et à l'intérieur de cette ville, à l'époque de Gréco, il y avait, je sais pas, 40 monastères, je sais pas combien d'églises, la cathédrale, et c'est une splendeur extraordinaire. Donc une grande, grande richesse. Beaucoup, beaucoup aussi d'artisans, donc, parce que comme ça, elle a été capitale du royaume, la cour de Charles Quint s'est déplacée à Tolède, et donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'artisans d'armure, de broderie, beaucoup, une grande grande, grande richesse, une grande vie dans cette ville, toute avec ses petites ruelles tarabiscotées. Donc, il reste quelque chose de ça. Il reste quelque chose des beautés des pierres, de certaines places, des bâtiments.
Oui, il y avait l'idée de vous rapprocher même physiquement du Greco, parce que vous racontez l'histoire de la pierre de la Vierge dans la cathédrale, oui. Que vous avez mangé des pinonadas. Enfin, l'idée, c'est que l'idée de vous rapprocher physiquement, pas simplement de l'œuvre aussi. C'était l'idée d'être en proximité.
Oui, alors je pense que peut-être il y a cette idée-là, et l'idée derrière, peut-être c'est une mise en abîme de l'incarnation. Alors pour expliciter ça, moi ce que je trouve fascinant dans l'œuvre de Greco, c'est la manière dont il appréhende le corps, les couleurs qu'il utilise, la manière dont ses personnages existent, hein, vraiment, de cette vie qu'il y a à l'intérieur d'eux, d'une manière très très personnelle, ce qui était quand même assez nouveau à l'époque, hein. On est en pleine Renaissance, la Renaissance a eu lieu en Italie, etc., mais en Espagne, c'est encore les artistes, comme à l'époque, sont dans des confréries, sont des artisans, alors que Greco, quand on voit un tableau du Greco, on sait tout de suite que c'est Greco. Il n'y a pas de doute dans sa manière de peindre les couleurs, les ciels. Il y a quelque chose d'extrêmement personnel. Et donc, moi, je trouve d'extrêmement incarné. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse dans son travail. Après, le travail de l'écrivain, alors qui est un peu différent dans ce texte-là, mais mon travail en général dans la fiction, c'est l'élaboration de personnages, c'est comment incarner aussi, comment faire que dans un texte, des personnages se mettent à vivre, des personnages se mettent à bouger. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage s'incarne? Donc ça, c'est un grand mystère sur lequel je travaille. Et je me suis dit que ce qui allait être intéressant, peut-être, dans cette idée de l'incarnation, c'est qu'au début du texte, Greco est le personnage qu'on connaît, qui est ce grand peintre dont on sait peu de choses. Enfin bon, on pourra parler de sa biographie après, mais finalement, de toute manière, ces personnes qui ont vécu à la fin du XVIe siècle, on sait quand même peu de choses de leur vie de tous les jours. On sait des tableaux, on sait quelques parcours, mais on sait peu de choses de qui ils étaient vraiment. Et c'était justement au fur et à mesure du livre que l'incarnation se fasse. Et que je viens à Tolède non seulement pour voir ses œuvres, mais pour comprendre, enfin, pour le rencontrer lui, pour voir qui il est, comment il vit, quel homme il était, qui se cache derrière ces corps-là, qui se cache derrière ce voyageur qui est parti de Crète, qui passe en Italie, qui arrive à Tolède, qui passe par Madrid, qui... Alors, il y a une chose très, très intéressante qu'on a aujourd'hui. Enfin, son fils, donc Jorge Manuel, qui était un peintre aussi, qui a travaillé longtemps avec lui dans l'atelier, qui était aussi architecte à Tolède, au moment de la mort de son père, fait une liste de tout l'héritage, enfin, en tout cas de tout ce qu'avait son père, Greco, notamment toute sa bibliothèque. Donc, non, on sait qu'il y a un lit, qu'il y a tant de couverts, qu'il y a 15 assiettes, etc. Mais il y a tous les ouvrages sont cités. Et ça, évidemment, vient révéler beaucoup d'une personne. Et donc, dans les ouvrages cités, il y avait beaucoup de traités d'architecture, de philosophie, du théâtre grec, puisqu'il lisait évidemment le grec. Et tout ça vient... Je trouve, quand on lit ça, quand on découvre ça, vient donner peut-être justement chair à ce personnage dont on ne connaît que les œuvres et qui peut-être veut qu'on ne connaisse que ses œuvres. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de savoir qui était lui. Et je l'attends, lui. Je veux le rencontrer, lui. Donc j'ai imaginé que finalement, ce texte était la rencontre d'un homme et d'une femme qui faisait fi des siècles.
Pour revenir, parce que vous inventez, enfin vous inventez des choses sur la biographie, parce qu'on veut, faut peut-être parler de la construction du livre en fait,
bien sûr.
Parce qu'il y a trois récits ou trois formes en fait. Il y a une biographie plus ou moins fictive du Greco. Il y a votre expérience récit autobiographique de ce qui se passe à l'intérieur du musée. et l'histoire, une histoire d'amour ou d'appel d'amour avec, vous avez avec le Gréco qui porte des formes plutôt formes poétiques ou de mm-hmm. poèmes. Donc il y a trois formes qui se mêlent. Oui. Qu'on retrouve déjà dans, aussi dans, dans le manifesto, votre mm-hmm. ancien livre. Et donc ouais, de cette forme-là, pour voir, pour parler de la biographie du Gréco, pour le coup, on ne sait jamais la part qu'il y a de ce qui est vrai ou de ce que vous inventez. Mm-hmm. Donc l'épisode, il y a le premier épisode de cette rencontre avec le serpent, et vous associez en fait cette découverte de l'art à la musique en fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez raconter ce moment-là qui est assez beau pour lui, tout d'un coup, l'art existe, ouais. mais c'est lié aussi à la musique.
Oui, alors ça, c'était un peu assez rapidement. Je me suis demandé comment j'allais construire ce texte. Et je me suis dit que j'avais envie que ce soit deux temporalités qui se rencontrent. Donc la temporalité de Léonore, qui est à la première personne. Donc je passe cette nuit à Tolède et je raconte cette nuit. Avec justement quand j'arrive, les surprises que j'ai, les bonnes et les mauvaises surprises que je peux avoir en arrivant dans ce musée la nuit. Et puis de l'autre côté, donc je raconte un peu le voyage, je raconte un peu Paris, je raconte un peu mes jours précédents, je raconte un peu pourquoi je suis là, pourquoi j'aime Gréco. Et puis je me suis dit que pour le connaître et pour le rencontrer, il fallait en savoir un peu plus de qui était cet homme. Et donc, je raconte, je ne sais pas exactement combien, une petite dizaine d'épisodes de sa vie. Et le premier, en effet, c'est cette scène quand il est enfant, en Crète. Donc, on sait que... Alors, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est né en Crète dans les années 1540. On ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, dans les années 1540. On sait qu'il est peintre peintre d'icônes, qu'il a un atelier. Ça s'est avéré parce qu'on a retrouvé des choses signées d'un notaire, d'un contrat signé. Donc pendant une vingtaine d'années, son activité a l'air d'être assez florissante. Il vient pas du tout d'une famille de peintres, comme c'est souvent le cas. Il vient d'une famille de commerçants. Bon, donc ça, on sait, il est en Crète. Ce qu'on sait aussi, c'est que la Crète est sous domination vénitienne depuis le XIIIe siècle. Donc, il y a beaucoup d'échanges culturels. D'abord, il y a même un dialecte qui s'est instauré là-bas. Et donc, il sait tout ce qui se fait à Venise, notamment toute la peinture vénitienne. Et je pense, en tout cas, c'est ce qu'il dit, à un certain moment, il part de Crète. Il part de Crète, il a 25 ans, il arrive à Venise et il veut apprendre à peindre autrement. Donc il faut se dire que en Italie, à Venise, c'est la peinture à l'huile qui est là, c'est la découverte quand même de toute la perspective, c'est une autre manière de peindre. Il y a l'influence de la peinture flamande, il y a évidemment eu Léonard de Vinci, il y a le Titien qui est le grand maître du Gréco quand il arrive là-bas. Donc, mais c'est quand même une remise en question profonde que fait cet homme qui n'est plus si jeune, 25 ans à cette époque-là. Enfin, je pense que l'espérance de vie était quand même pas très très grande. Donc, mais bon, il se met en danger en arrivant à Venise. Il apprend ça, et puis ensuite il part à Rome. Il va passer quelque temps au palais Farnèse. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'il a ce caractère quand même un peu difficile. Je pense quelqu'un de très très intelligent, mais aussi avec une haute idée de lui-même, en tout cas un désir très fort, une grande ambition quant à sa peinture. Et ni à Venise, ni à Rome, je pense. Il fait des très, très beaux portraits à Rome. Hein, il se fait quand même un peu connaître. Mais il y a cette histoire, alors devenue fameuse, on ne sait pas, moi j'en parle un petit peu dans mon livre. Il y a cette histoire où, à Rome, il se fait finalement chasser parce que on est dans les années 1575, je dirais, la chapelle Sixtine donc, a été, et le jugement dernier ont été peints. Évidemment par Michel-Ange. Michel-Ange est mort. C'est un saint, c'est une divinité, c'est un dieu à Rome. Michel-Ange, c'est vraiment l'artiste le plus renommé, le plus connu, qui est vraiment bon. Et il a peint sa chapelle Sixtine avec des nus. Et le pape de l'époque, quand Gréco est à Rome à ce moment-là, décide qu'il faut couvrir ses nudités. Donc il fait appel. Il y a une sorte d'appel d'offres je crois, où il fait venir plusieurs peintres en disant, voilà, est-ce que vous pouvez vous occuper de couvrir ces nudités? Et donc, d'une manière très drôle, ces peintres vont s'appeler les braguettone, ceux qui peignent des braguettes. Bon. Et donc, c'est quand même, évidemment, un peu étrange, mais je pense une commande de haute volée de venir peindre sur cette fresque. Et donc, Gréco se présente, mais il a l'audace de dire que bon, bah, Michel-Ange était un excellent sculpteur, mais quand même un mauvais peintre, et que si vraiment on lui laissait sa chance, lui repeindrait entièrement ce Jugement dernier. Donc on se dit, ça va, cet homme est quand même bien à l'aise. Et alors ça c'est relaté dans, enfin je sais plus qui, mais cette histoire est devenue évidemment une légende, et qui fait que malgré tout il ne peut quand même pas tout à fait rester à Rome. Ça lui enlève toute possibilité d'autres commandes, et il apprend plus ou moins à ce moment-là, il apprend que, donc Charles Quint étant mort, que Philippe II, nouveau roi d'Espagne, décide d'exiler la cour. Elle part de Tolède à Madrid. Donc là, on est en 1577, quand je pense par là, enfin, à quelques années près. Et que, surtout, il va faire un grand chantier qu'il met en place. Philippe II, c'est l'Escorial. Donc un très grand monastère où il veut faire venir tous les grands artistes d'Europe. Et là, Gréco se dit, j'ai une carte à jouer. Et en effet, il va avoir deux tableaux qui vont lui être commandés. Mais finalement, Philippe II n'aime pas trop sa peinture. Et il va avoir une prochaine commande qui va être à Tolède, d'un tableau pour la chapelle et ensuite pour un monastère. Et sauf que pour ce monastère, dans son contrat, est stipulé qu'il doit rester sur place le temps de faire cette commande. Donc en fait, ça va lui prendre 8 ans, je pense. Et là, évidemment, il s'installe, il va rencontrer une femme, il va avoir un enfant, etc. Donc on sait tout ça, et on sait que finalement, il va faire sa vie à Tolède, et il va mourir à Tolède. Donc cet homme qui sera parti de Crète, Venise, Rome, Madrid, Tolède, un peu malgré lui, finalement, cette installation à Tolède, il part pas de Crète en se disant « je vais m'installer en Espagne ». Et puis, il y a ce nom qu'il a quand même, El Greco, donc El qui est en espagnol, et puis Greco, c'est grec en italien, donc c'est vraiment tout son voyage est dans son nom. Alors, moi, je sais ça, je lis ça, et je me dis que je ne suis pas historienne de l'art, que ça, n'importe qui peut le lire, n'importe qui a envie de connaître Gréco de manière factuelle a plutôt intérêt à en lire un livre d'un commissaire d'exposition ou d'un historien de l'art plutôt que le mien. Que par contre, ce que je peux faire, c'est essayer, dans l'interstice, dans les brèches de cette vie, de venir tirer des moments qui soient des moments de fiction, mais qui soient dans le moment dans lequel il est. Donc, c'est-à-dire, il y a un moment quand il est enfant, donc cette course comme ça, qui est en effet un premier, j'imagine, le premier concert, qui est lié à une grande peur que va avoir cet enfant de 6 ans qui est Domenicos. Et il arrive dans une église et il entend un concert. Et je dirais que l'état émotionnel dans lequel il arrive avec cette peur fait qu'il écoute autrement et qu'il écoute en couleurs. Il y a quelque chose qui est lié à la musique et les couleurs. Ensuite, il y a un moment où il est à Venise aussi. Il y a un autre moment quand il arrive à Tolède. Il y a une grande fête à Tolède. Donc tout ça, Domenicos a été dans ces moments-là, dans les lieux dont je parle, mais j'invente et ça je sais pas, moi ça je l'avais déjà fait dans un précédent texte qui s'appelle Pietraviva, qui est un roman sur Michel-Ange. Moi ça me pose pas de problème, peut-être ça devrait, hein, mais ça me pose pas de problème d'imaginer de donner cette chair là parce que je pense que la chair de la fiction, l'aspiration de la fiction, l'épaisseur que peut donner un personnage, donc la fiction peut donner un autre éclairage, et que même si c'est un éclairage un peu faux. Évidemment, je ne sais pas si cet enfant a croisé une vipère à 6 ans. Mais c'est pas grave. C'est une invention. Et justement, le sujet de l'invention est un sujet intéressant dans l'œuvre de Gréco, parce qu'il faisait ses commandes, mais il avait aussi un atelier et il faisait beaucoup de peintures de dévotion. C'est la contre-réforme en Espagne, il y a l'Inquisition, donc c'est beaucoup de choses autour du repentir. Et donc les gens pouvaient venir, il fallait qu'ils aient évidemment assez d'argent, mais pouvaient venir commander un tableau dans l'atelier du Gréco qui représentait un Saint François, un Saint Jérôme, et devant donc ces peintures de dévotion devant lesquelles on priait. Donc ça veut dire que Gréco a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des mêmes peintures. Et l'invention, elle se situe, c'est une improvisation sur un thème, je dirais, comme en musique. Il improvise, et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu l'exposition là, au Grand Palais, à Paris, qui est une belle expo, le catalogue est intéressant, et on voit ça, il y a plusieurs Saint-François les uns à côté des autres, et on voit, et finalement ils ont tous un peu la même posture, ils ont tous un peu la même taille, mais il y a la couleur, il y a le regard, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc je pense que sur un thème donné, moi mon thème c'était Gréco, l'invention qui tourne autour d'une base réelle vient éclairer autrement mon sujet, qui est mon thème, enfin c'est aussi une approche musicale du thème et variation en fait.
Pour revenir au Gréco, sa biographie, enfin il y a beaucoup de réflexions sur l'art en fait, ouais. À travers tout votre récit en fait. Et notamment, il y a un passage, vous dites, la vie de ces abondants était longue. Alors est-ce que pour vous, l'art va avec le renoncement ou le sacrifice ? Est-ce qu'il y a une notion qui...
Alors, oui et non. Alors je dirais que la vie d'artiste est une vie disciplinée. Que quand lui, il a travaillé, donc il avait son atelier à lui, mais c'était un homme qui a passé beaucoup de temps à essayer de défendre ses œuvres. Il y avait beaucoup de procès autour de ses œuvres parce que quand on lui faisait une commande, on lui versait des arts. Un certain prix était fixé. Mais tout le jeu était, donc ça c'est quand même assez fou, aujourd'hui ça semble inimaginable, tout le jeu était qu'une fois que la peinture était livrée, d'essayer de faire baisser le prix. En disant, ben oui, mais on vous avait commandé ça, c'est pas vraiment les bonnes couleurs, et puis votre mari, elle est pas au bon endroit. Donc tout ça pour essayer de grappiller un peu d'argent. Et il y avait même des collèges d'experts, donc les autres peintres de la ville, qui faisait collège et qui regardait l'œuvre en portant jugement, en disant, faisait une expertise. Ben oui, en fait, cette œuvre vaut le prix qui était dit au départ. Non, en fait, elle est moins bien. Donc on imagine déjà les haines que ça pouvait créer. Gréco détestait que ses peintres... Il avait l'impression quand même, il était venu de Venise, il avait une sorte d'idée. Il avait voyagé, il connaissait la Renaissance, je pense qu'il prenait un peu les peintres sur place pour sachant moins que lui. Donc je pense que juste d'être jugé par ses pairs de cette manière-là, ça le rendait un peu dingue. Et puis, donc il passait son temps à contredire et à dire non, moi je veux tant. Donc il a passé des années, donc il y a des traces de procès et de procès et de procès, donc il était procédurier. Je pense que en voulant, son œuvre avait une certaine valeur, la valeur qu'il pensait, une haute valeur. Il avait une haute estime de son art, avec raison. Parce que quand même, c'est un artiste exceptionnel. Mais je crois que je me perds complètement. C'était quoi votre question ?
C'était le lien entre pratique artistique et renoncement.
Ah, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on sacrifie pour être un artiste ? Sa famille.
On passe du temps. Oui. Alors.
Parce que vous avez dit qu'il abandonne Ariada. Enfin, vous inventez.
Oui. Alors personnage. Là, j'invente l'impersonnage d'une femme parce qu'on se dit, les historiens se disent que en partant vers 25 ans, il est tout à fait probable qu'il ait eu au moins une femme. Si ce n'est une famille en Crète, bon, il ne revient jamais. Ensuite, il va avoir une autre femme, donc ça, on connaît son nom, Jerónima de las Cuevas, avec qui il va avoir un enfant, mais il ne se marie pas, puis elle-même disparaît très rapidement. On ne sait pas comment, donc moi j'invente aussi la disparition de Jerónima. Je crois que, bon, de toute manière, il fallait passer beaucoup de temps à peindre. Il passait beaucoup de temps, il y avait un atelier, donc il y avait déjà ce temps-là. Ensuite, le fait qu'il mette tant de lui-même et qu'il y ait une telle spiritualité, parce qu'il s'agit de ça quand même, au-delà de la religion, il y a dans les personnages du Gréco l'expression de lui-même, mais aussi l'expression de ce que peut être l'esprit, de ce que peut être l'élévation de l'esprit à travers la peinture, à travers une forme d'art. Donc, pour accéder à ça, c'est beaucoup de travail, et donc forcément, c'est un renoncement à d'autres choses. Et la discipline artistique à un haut niveau est on est très seul. Enfin, bon, moi, je suis très seule quand j'écris. C'est aller chercher en soi quelque chose de très profond, que ce soit en peinture, en littérature, dans les films, enfin tout ça. La création est un moment de solitude profonde, et ça n'est que dans cette solitude profonde là que quelque chose de singulier, à mon avis, peut émerger. Donc oui, il y a une forme de renoncement. En plus, il a eu un moment où il était connu et il gagnait de l'argent, et puis après, la course en étant allée, beaucoup, la ville a commencé rétrécie. Petit à petit, il y avait moins d'argent. Donc, il a fini assez pauvre. Ça, on le sait. Mais il a continué de peindre. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément un renoncement. Peut-être c'est une forme d'ascétisme aussi. Qui va, évidemment, avec ce qu'il peint.
Parce que ce thème-là de la solitude, vraiment, vous inventez, enfin non, vous parlez de Yermo, enfin c'était oui. La deuxième partie, ouais. C'est important, vous parlez de cette solitude, ouais. Et vous avez des très belles réflexions sur l'acte de création. Par exemple, vous parlez du disegno interno,
oui.
Et ce concept élaboré dans l'esprit de l'artiste avant sa réalisation, c'est quelque chose qui a l'air de vous obséder, que vous parlez déjà dans Pietra Viva,
oui.
Cette idée, cet instant entre ce qui se passe dans la tête du créateur et la réalisation, concrètement, cet espace-là.
Oui, ouais. Alors ça, justement, ce concept du dessin intérieur, le disegno interno, c'est vraiment, ça a été très très écrit et très élaboré par les historiens de la Renaissance à l'époque, hein, aussi Léonard, qui disait que l'invention que l'on a à l'intérieur de sa tête d'un dessin, donc ce dessin intérieur qui est l'œuvre finie mais non élaborée, et le trajet et sa réalisation. Donc il y avait une sorte de lien. Enfin, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est comment on passe de cette élaboration intérieure, du possible. Et en tout cas, peut-être que pour un roman, les choses ne sont pas si claires. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le dessin, dans la forme du dessin intérieur comme elle est traitée, où on a quand même une vision assez, assez claire du dessin. Ça n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a quand même une pré-impression du dessin dans l'esprit avant qu'il ne soit réalisé. Et donc l'élaboration intellectuelle de ce dessin et ensuite sa réalisation par la main, ça c'est un, ce mouvement-là de l'un à l'autre, c'est un concept qui a été beaucoup étudié et on a beaucoup écrit sur ça à la Renaissance, les artistes. Donc j'ai pensé que le dessin intérieur était un lieu plus large que le pur dessin. C'est ce lieu-là, c'est ce jardin clos, je dirais, où l'artiste se retrouve pour pouvoir créer, pour pouvoir imaginer. Moi, je pense que l'imaginaire, c'est un lieu d'une échappée, d'une sorte de fulgurance qui arrive. Et pour ça, il faut être dans un certain état de disponibilité, en tout cas dans un certain lieu en soi. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible si on est très entouré. Si on parle là, si au moment où je vous parle, il est évident qu'il n'y a rien qui va surgir. Je suis occupée. Je vais pas tout d'un coup me dire tiens, j'ai cette phrase en double de mon cerveau. Si j'avais une sorte de double cerveau, ce qui n'est pas le cas, une phrase qui pourrait s'élaborer de poésie ou qui viendrait ou une idée de roman, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je parle en effet de ce disegno interno comme d'un concept qu'utilise dans lequel vient se réfugier Gréco.
Mais là, vous dites plus que ça. Vous dites à un moment, c'est un espace où on ne peut pas mentir, on ne peut être que soi-même. C'est quelque chose de...
Oui, bien sûr, c'est l'endroit fondamental. C'est l'endroit fondamental de... pour moi, cette grande... Quand on est tout à fait seul, c'est un lieu où on ne peut plus se mentir. Enfin, on peut continuer si on a envie, mais... Mais si on veut créer et qu'on est seul, cette forme d'intégrité absolue, hein, c'est de la grande solitude, c'est la grande intégrité aussi. Et ça n'est que dans cette intégrité-là, dans ce fondement-là, que peut surgir la création. Par contre, ça n'empêche pas l'éducation, ça n'empêche pas l'élaboration d'un regard, ça n'empêche pas le travail, ça n'empêche pas que, à force de voir, à force de lire, à force d'étudier, à force d'être attentif, à force d'être sensibilisé aussi à la beauté, tout ça est emmagasiné. Mais ce terreau de toute cette matière, je dirais, elle ne va être utilisée et traitée que dans ce petit territoire qui est celui de la solitude profonde, qui, à mon avis, est aussi celle de la vie. Hein. On est toujours très seul, hein, à un certain moment, dans ses choix, dans la liberté qu'on a, dans son rapport à la mort, dans les grandes questions. On a des réponses que depuis cet endroit-là. Même si on peut... s'abreuver, rechercher des réponses ailleurs. Mais la réponse, elle est en soi.
Mais dans le processus, en fait, le travail avec la matière, ça influe quand même. Ben, on peut avoir une idée au départ, mais le fait de commencer à réaliser, ça influe et on n'est peut-être plus...
Ah, bien sûr, on peut se sortir de cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que le concept est figé. Ça ne veut pas dire que le concept est figé, mais le concept est là. On démarre d'une image intérieure, et après, le mouvement de la main, puisqu'il s'agit de ça aussi, du mouvement de la main, peut venir, évidemment, le changer, et une idée peut passer, et ça peut... Et alors, ça circule. Alors, ça veut dire que, de la main, le dessin intérieur vient changer. Et ça, c'est mouvant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comme ça peut fluctuer. Moi j'ai... Parfois, dans mes romans, j'écris et j'ai une scène pourtant bien précise en tête, et je me dis, il va se passer ça, et je vais écrire ça, et il va rentrer, il va sortir, il va dire ceci, cela. Et en fait, le personnage fait autre chose. En fait, sur le moment, le personnage, je vois bien que soit ça ne fonctionne pas, c'est incohérent, soit le personnage fait juste ce qu'il veut. Mais peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si il n'y avait pas ce cadre. Et on en revient à ce qu'on disait au début de la commande et de la contrainte. Dans une forme de contrainte peut surgir quelque chose d'inattendu. Et finalement, ce que l'on attend tous, je crois, c'est cette forme-là d'inattendu. Et le créateur, quand il a cette idée que finalement, hop, là, ça dévie et ça s'échappe. Et aussi l'amateur qui vient voir une exposition, qui vient écouter un concert et qui tout d'un coup est embarqué dans quelque chose de... inattendu, qui est aussi à l'image de la rencontre amoureuse. C'est pour ça que je fais ce lien entre l'émotion artistique et l'émotion amoureuse, qui, à mon avis, sont deux moments qui viennent nous sortir de nous-mêmes, qui viennent nous sortir de notre temporalité. Moi, quand je vois un tableau du Gréco, je m'en fiche de savoir s'il est 2600 ou 2580, etc. Il y a quelque chose qui m'émeut maintenant. Et c'est une rencontre de deux temporalités qui vient justement les effacer. Ça en crée une autre. Et le désir, l'amour, vient aussi nous sortir de nous-mêmes. C'est une rencontre qui nous met hors du temps. Et ce livre, il est tressé autour de ça, autour de comment on peut être sorti de notre propre temps. Et que finalement, Léonore est sortie d'elle-même dans ce lieu-là, et que finalement, ça permet une rencontre avec Gréco, qui est Doménikos, que j'appelle Doménikos.
Oui, c'est parce que c'est une vraie histoire d'amour. Enfin, ouais. Bon, des fois, il faut le lire, évidemment. Des passages très poétiques. Ça fait beaucoup penser à des films hollywoodiens, l'aventure de Madame Muir, enfin, ces amours entre des vivants et des fantômes. Ouais. Et c'est parce que le thème du fantôme, ça réapparaît beaucoup dans votre livre. Ouais. Donc, vous vivez avec beaucoup de fantômes.
Moi, je vis avec ma jeune. Ils sont...
Ils sont par là.
Ils sont planqués derrière les fauteuils. Il y en a quelques-uns dans la loge où on était. Non, non, moi, j'en ai parlé dans le manifesto. Moi, j'ai eu beaucoup de deuil dans ma famille qui ont fait que je transporte mes morts avec moi. Et je pense qu'ils sont là. Et qu'on est beaucoup plus entouré qu'on ne croit. On peut le percevoir ou pas, on peut avoir envie d'être traversé par ça ou pas. Hein. Moi, j'y pense pas tout le temps, évidemment. Mais je sais que je porte mes morts. Et plus. Donc, évidemment, Domenico, c'est un fantôme qui revient. J'aimerais beaucoup que certains de mes fantômes reviennent. Écrire est une manière de parler d'eux et de les incarner, justement, quand on parle du personnage, comment le travail de l'écrivain, c'est l'incarnation fictive, mais dans à laquelle on a tellement envie de croire qu'on y croit. On ouvre un livre pour y croire. Et donc, mes fantômes, évidemment, en Espagne, sont avec moi dans cette nuit-là. J'essaye de le traiter avec humour parce que j'ai envie, enfin, c'est une grande drôlerie aussi d'être avec eux, et j'avais envie de qu'il y ait quelque chose d'un peu loufoque dans cette nuit où je suis seule, où j'arrive, en fait, ils ont éteint tout, c'est-à-dire j'arrive dans cette salle où je me dis enfin une nuit avec Gréco, ce face à face dont je vous parlais, qui va être extraordinaire, il va se passer plein de choses, tout est éteint, je ne vois rien. Donc là, je me dis, la nuit va quand même être très, très longue. Donc, les deux heures que j'ai dans cette aile particulière, alors je ne sais pas pourquoi ils ont éteint. Enfin, bon, j'ai jamais su si c'est pour des raisons de conservation. Bref, donc je suis avec mon téléphone. J'essaye d'éclairer un petit peu ces tableaux, mais enfin, ça fait une sorte de tache blanche. Donc, il y avait... Enfin, il y a des moments où j'ai ri parce que c'était absurde. Il y avait une sorte d'absurdité. Et j'ai eu envie que ce livre soit à la fois évidemment un hommage à la beauté, au travail que je fais, donc toute la poésie, tout ce qui est de l'incantation, du mysticisme, et que je pense que je suis mystique aussi, et je n'ai pas peur de croire que Domenicos va me rejoindre. Il me rejoint, mais il y avait aussi, j'avais aussi envie que le livre ne soit pas si tragique, ou enfin qu'il y ait quelque chose de plus léger et de qui était là aussi ce soir-là avec les inattendus.
Oui, vous racontez, vous allongez les bras en croix, ouais. Le problème du lit de camp, enfin voilà, il se passe plein de choses, vous dansez, il se passe plein de choses.
Oui, on nous prévoit un lit de camp, donc j'avais un petit lit de camp. Mais alors, sauf que ce lit de camp était installé dans cette chapelle, qui est une très belle chapelle, mais quand même un peu impressionnante, complètement éclairée. Et le lit de camp, je l'ai mis dans un coin. Je me suis dit, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir réussir à m'endormir dans cette chapelle, illuminée, filmée. Je me suis dit, non, ça va pas être possible.
On n'a pas évoqué le fameux carnet. Oui. Carnet de votre père, en fait, on le voit pas tout de suite. Vous parlez du carnet, mais on se demande pourquoi vous parlez du carnet. Oui. C'est qu'à la fin que vous révélez ce carnet, peut-être pourquoi vous êtes allé dans ce musée-là, et pourquoi vous êtes passé cette nuit-là. Peut-être parler de ce carnet.
Oui. Alors le carnet, c'est le fil rouge, je dirais, du texte qui est ce lien. C'est-à-dire pourquoi je vais là. Alors je vais là parce que j'aime Gréco, je vais là parce que j'aime la peinture espagnole, je vais là pour plein de raisons. Mais la vraie raison, c'est que je retrouve un carnet de mon père après sa mort. C'est un carnet qu'il avait enfant, dans lequel il faisait beaucoup de dessins. Il dessinait beaucoup ses proches. Et puis, il dessinait les illustrations. Donc, ils sont... mon père est donc espagnol, républicain espagnol, exilé du franquisme, qui arrive pas loin d'ici en 36 et qui va vivre toute la Seconde Guerre mondiale dans une ferme des Landes, dans un grand dénuement. Donc pas de livres, très peu de choses, mais un livre, un dictionnaire illustré. Et de ce dictionnaire illustré, il va recopier donc toutes les images, et notamment avec beaucoup de force et beaucoup de persévérance, un tableau du Gréco. Et donc, je me suis dit, cette obsession... Donc je parle, en effet, à la fin du livre, j'explique ça, et j'explique comment l'obsession d'un père peut devenir aussi la... C'est pas... C'est comment dire, j'ai pas le mot exact, mais sa quête, enfin la quête qu'il avait de l'art et qui est là enfant, où il a 7-8 ans et il recopie sans trop savoir ce que va devenir sa vie, évidemment, parce qu'on sait jamais. Et moi, je recueille finalement, je recueille dans ce carnet cette obsession et je la fais mienne en venant à Tolède et je dis que je la consacre en venant à Tolède. Donc il y a une sorte de danse comme ça entre nous tous, il y a une sorte de lien qui se crée, comme j'aime faire dans mes textes. Il faut que les choses prennent sens à un certain moment, qu'elles soient complètes, et elle devient complète avec le carnet, avec Gréco, avec le violon, avec quelque chose des fantômes qui ressurgissent et qui renaissent et qui sont dans un lyrisme, parce que le livre est quand même assez lyrique aussi dans l'écriture, beaucoup plus que Manifesto, qui est un livre plus tendu, plus là il y a une sorte d'envolée. Je voulais que ce soit quelque chose dans la langue qui vraiment soit très luxuriant, qui soit très très poétique, très très évocateur de la chaleur et de la poésie et de cet art et de cette quête qu'on a tous d'être émerveillé, d'être dans quelque chose de beau.
Oui, d'ailleurs, c'est un de la première partie qui s'appelle Miraculum
Mundi. Oui, Miraculum Mundi, oui, de Venise.
Vous liez à la découverte du Grand Canal, aux lumières, qui est magnifique. Oui. C'est un très beau. Cette idée-là. Pour reparler de la réincarnation, c'est un thème qui court tout le long de votre livre, de l'incarnation, mais aussi de la résurrection. Oui. Vous parlez quand même du magnifique tableau de l'ouverture du cinquième saut, qui est un tableau extraordinaire. Et pour le coup, vous parlez d'intemporalité. Oui. On regarde le tableau. Il est impossible de savoir quand il a été peint si on connaît pas la peinture.
Oui, oui, oui. Moi, en tout cas, c'est pourquoi j'aime beaucoup Gréco. Enfin, quand je découvre Gréco au musée du Prado et que je suis jeune fille, j'ai l'impression que ils se sont trompés dans l'accrochage. Que cette peinture de la fin du 16e, elle devait être ailleurs, elle devrait être à côté de Goya, à côté de Gonchil. Enfin, il y a quelque chose en tout cas dans cette peinture, dans la distorsion, dans les ciels qui sont roses, dans des couleurs marron, verte, bleu, décor comme ça, très très inattendu. Il y a une modernité, enfin, même si ce mot est terrible, mais bon, il y a en tout cas un anachronisme dans les peintures qui sont accrochées autour, qui, moi, me sautaient aux yeux. Donc son extravagance, donc sa singularité, donc son expression. Et en effet, Picasso ne s'est jamais caché de vraiment de l'influence qu'a eu Gréco sur son art. Donc je parle de ça, parce que ça, je me souviens d'être un peu interloqué en me disant, mais c'est quoi cette peinture-là au milieu du 16e espagnol?
Ça, on dirait des flammes. Vous parlez de ça avec tout le livre, la métaphore de la chaleur, évidemment, il fait très chaud, mais c'est vrai que c'est le feu mystique. Enfin, il y a une métaphore qui court tout le temps du brasier, de l'amour, du feu, de cet thème-là qu'on trouve un peu partout. Et c'est vrai que le mysticisme, c'est une dimension très importante du livre, avec des magnifiques passages que je vais vous inviter à lire. voilà, sur la.
Sur Sainte-Thérèse d'Avila.
Voilà aussi, parce qu'à un moment, vous parlez à un moment que vous aviez pensé amener le livre de Saint-Jean-de-la-Croix.
Oui, Saint-Jean-de-la-Croix, je l'ai laissé à l'hôtel.
Finalement, vous l'oubliez, donc il y avait cette dimension. Ouais.
Très magnifique poésie, Jean-de-la-Croix, mais extraordinaire. J'ai vraiment redécouvert, avant d'aller à Tolède, j'ai acheté une sorte, là aussi, de fièvre, de flamme, de désir extraordinaire, de l'âme. Dans le Christ, c'est incroyable.
Merci, mais je vous invite à brûler en lisant le livre de Leonardo Rondo. Merci à tous. S'il y a des questions, c'est le moment.
Ouais, merci.